Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! De l'ère du fax à l'ultra-digital, du happening local à l'international débridé, des arguments hype aux allégations écologiques, s'il y a bien un domaine qui évolue presque aussi vite que les collections dans la mode, c'est la communication. Les marques se disputent l'attention des consommateurs, aujourd'hui estimée en secondes, sur des canaux toujours plus nombreux, challengeant l'inventivité des responsables marketing. Éditorial, images, packaging, vidéos, séjours presse, box personnalisés, nous vivons cette époque, somme toute paradoxale, où l'information est omniprésente et a pourtant rarement été aussi peu consistante. Alors, comment faire du bruit intelligemment quand on est une marque? Quel budget y consacrer? À qui s'adresser efficacement? Comment amener sans blabla et avec consistance des informations concernant ses engagements sans risquer le backlash? Pour aborder ces questions, on reçoit aujourd'hui une femme hors du commun. Élodie Lavèvre est chef d'entreprise et fondatrice de 187com, agence de relations presse spécialisée dans l'outdoor et le sport. Depuis plus de 15 ans, elle accompagne des marques comme Patagonia, Timberland, Red Bull France, Eli Hansen ou encore l'application Strava. Entre les marques, la presse et les consommateurs, voici comment 187 a su gagner la confiance de ses partenaires, se construire un réseau et faire évoluer son métier à l'heure de la crise climatique. Bonne écoute! Salut Élodie.
Salut Victoire.
Je suis hyper émue et honorée de t'avoir à cette table aujourd'hui. Déjà parce que je sais que tu vas nous raconter plein de choses passionnantes. Aussi parce que ça fait un moment qu'on se connaît. Merci Maxime si tu nous entends. Un coucou. Et qu'à l'époque où on s'est rencontrés, je me rappelle très bien t'avoir exposé mes grands plans de création d'un média sur la mode responsable et d'avoir vu dans ton regard très bienveillant, autant de curiosité peut-être un peu admirative que de « elle est complètement cinglée et elle ne sait pas ce qu'elle va faire ». Donc voilà, je suis très contente et je suis contente aussi parce que depuis 4 ans, un peu plus maintenant, j'ai vu évoluer les marques avec lesquelles tu travailles. J'ai eu la chance aussi d'avoir la confiance de 187 pour certaines missions. Donc voilà, on va essayer de parler de tout ça aujourd'hui. Bienvenue. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît?
Merci Victoire, ton accueil et de ces gentils mots. Moi aussi, je me rappelle de la première fois où on s'est rencontrés avec beaucoup d'émotions. Moi, c'est donc Élodie. Je m'appelle Élodie Lavèvre. J'ai 47 ans depuis quelques jours. Je suis dans ce métier depuis la fin des années 90. On va dire que j'ai commencé le métier d'attaché de presse en 1998, et je l'ai commencé dans la musique. J'étais chez Sony Music, j'étais chez Columbia exactement. Et c'est là où j'ai appris le métier des relations presse, puisque j'étais interprète et traductrice de formation. Mes études, c'était les langues, l'anglais et l'allemand précisément, et je m'étais destinée à une carrière de traductrice et d'interprète. Même si je savais que ça serait juste pour avoir un diplôme, parce que je savais depuis que j'avais 13-14 ans que je voulais travailler dans la musique. Comme tu le vois, j'ai pas complètement respecté tous mes vœux, mais c'est la musique qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui, puisque le premier job que j'ai décroché était dans la musique, et c'était, hasard du sort, un job dans le service RP de Columbia Sony Music.
Pourquoi est-ce que tu avais fait, en ayant envie de bosser dans la musique, des études de langue ?
J'ai fait des études de langue tout simplement parce que j'avais des facilités en langue. J'ai appris l'anglais très tôt. J'avais la chance d'avoir un correspondant anglais qui était le fils de la correspondante anglaise de ma maman. Et donc, je suis allée très tôt, à 9 ans, un mois par an, l'été, chez cette famille qui habitait à Glastonbury, le fameux festival de Glastonbury dans le Somerset. Et voilà, donc j'ai eu très facilement des facilités. C'est pas j'ai eu très facilement, j'ai eu des facilités dans ce domaine, dans le domaine des langues étrangères. Donc j'ai fait une école qui s'accompagnait d'un DUG à l'époque. Le DUG, ça doit être un master 1 aujourd'hui, je sais pas comment on appelle ça. Hein. C'est les deux premières années de fac. Et voilà, donc c'est un cursus en 5 ans.
Et au moment où tu donc, décroches ce job dans la musique, tu vois, le métier de relations presse, moi qui pourtant ai un tout petit peu d'expérience à tes côtés et aux côtés d'autres agences, je palpe ce que c'est, mais je pense pas du tout tous les contours. Alors dans la musique, encore moins. Comment est-ce que on t'introduit à ce milieu en fait ? En quoi consiste ton travail à l'époque ? Et puis est-ce que c'est la même chose que pour les marques ? Tu vois, comment s'opère ce switch ?
Honnêtement, Victoire, c'est pas un métier difficile. En fait, les contours du métier, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu nébuleux, mais c'est pas un métier compliqué. Les ressorts de ce métier sont relativement simples. En fait, j'ai souvent l'habitude de dire que on n'apprend pas à devenir attaché de presse. On l'est un peu à la base. Alors, c'est vrai que ça nécessite quelques compétences qui s'acquièrent à l'école ou ailleurs. Mais c'est quand même un métier où les prédispositions naturelles, humaines, sont importantes. C'est un métier où l'entre-gens est capital. Donc la curiosité de l'autre, l'aise avec l'autre est cruciale. Donc si tu as ça déjà, tu es prédisposé à faire ce métier. Et après, c'est vrai, tu apprends. Moi, j'ai appris complètement sur le tas, hein, parce que c'est pas du tout... lors de ma formation, lors de mon cursus, qu'on m'a appris quoi que ce soit. Mais voilà, tu apprends des petits... Il n'y a pas des milliards d'outils dans ce métier. Si tu sais bien écrire, si, encore une fois, tu es à l'aise avec les autres, si tu es curieuse, si tu sais parler anglais, parce que dans notre métier, ça sert, tout dépend dans les milieux dans lesquels tu opères, mais l'anglais est important. Et si tu es organisée et que tu travailles rapidement, surtout quand tu es en agence, on va dire que c'est la base.
Ok, tu apprends les RP sur le tas dans le monde de la musique, mais entre le monde de la musique et celui de l'outdoor, il y a quand même un grand écart. Comment ça se passe ?
C'est un peu particulier, c'est vraiment le hasard du sort. Je rêvais vraiment de bosser dans la musique et j'ai fait ça. J'ai donc accumulé tous mes stages, j'ai fait tout bien dans l'ordre. C'était aussi une période à l'époque, c'était les trois grosses glorieuses où tu envoyais un CV, t'avais du boulot. Et ça a duré un an et demi, cette expérience, ou deux ans, un an et demi ou deux ans chez Sony, mais ça n'a pas été simple. J'ai vu un petit peu le derrière du rideau. Hein. Alors ouais, je rencontrais des gens passionnants, des gens qui m'ont animé, des gens qui m'ont émerveillé, des gens qui m'ont fait briller les yeux. En revanche, humainement, c'était un petit peu dur. Et j'étais toute jeune, j'avais pas tout à fait encore bien confiance en moi. Et on m'a un peu abîmée. On m'a fait perdre le peu de confiance que j'avais en moi. Et c'était pas simple de bosser. Et au bout de un an et demi ou deux ans, j'ai décidé de pas continuer parce qu'il en allait de ma santé mentale, très clairement. Déjà à l'époque, il y avait ces soucis-là, même peut-être un petit peu plus qu'aujourd'hui, je crois. Parce qu'il n'y avait aucune considération, enfin pas beaucoup de considération en tout cas. Enfin, moi, on m'empêchait de regarder les artistes dans les yeux quand je leur disais bonjour. On m'accusait de vol une fois tous les quatre jours. Enfin, c'était compliqué, c'était vraiment sur l'humain en plus. Bon, après, je suis certainement tombée sur une personne pas top. Et j'ai décidé de faire un gros virage. Je suis partie aux États-Unis pendant peut-être un été, un petit peu plus. Et en revenant, c'est un enchaînement... Je vais essayer de faire très court, mais en gros, je me suis fait hold-upé dans la banque où j'avais rendez-vous en rentrant en France avec ma conseillère de banque.
Hold-up, tu veux dire, c'est pas une figure, c'est
non,
vraiment...
Non, je me suis fait hold-upé. Au moment où j'étais là, il y a deux types qui ont débarqué avec des gros fusils, qui n'étaient pas, en plus, qui n'étaient pas très, très organisés. Ils n'étaient pas masqués, pas gantés, tout ça. Donc, on voit qu'ils étaient un peu amateurs. Et voilà, et ils ont pris un peu tout le monde en otage pour essayer de récupérer le peu de liquide qu'il y avait au guichet. Et voilà, donc ça a été assez traumatisant. Ça m'a fait un petit peu remettre en question ma vie à Paris à l'époque, surtout que j'avais pas de taf. Je rentrais des États-Unis et j'avais pas vraiment retrouvé de boulot depuis Sony. Et puis voilà, une autre anecdote un peu triste personnelle a fait que je me suis retrouvée à Thonon-les-Bains pour les obsèques d'un ami qui travaillait en station. Et là, tous mes amis de l'époque m'ont demandé ce que j'avais prévu de faire et j'avais rien prévu de faire, donc je suis partie faire une saison. Je suis partie faire une saison au ski et de fil en aiguille, bah, j'ai décroché un poste d'attaché de presse parce que moi, je voulais faire un truc qui ne me responsabilise pas, vendeuse, en tout cas où le soir, je puisse rentrer chez moi. Je sais pas, j'aurais pu être barmaid, j'aurais pu être composteuse de forfait, j'aurais adoré ça, découvrir autre chose en fait qu'un métier dans les bureaux. Mais bon, c'était visiblement pas pour moi. Les employeurs ne me faisaient pas forcément confiance là-dessus. Et pour cause, je pense qu'ils avaient raison. Et puis finalement, voilà, l'office de tourisme embauchait à l'époque pour remplacer une attachée de presse en partance et ils m'ont choisi moi.
Donc à l'époque, c'était l'office de tourisme de la station dans laquelle tu étais. Et donc, l'idée, c'était de faire rayonner la station, attirer les clients
À l'époque, c'était la station de Tignes qui m'a accueillie, qui était une station en plein essor, qui était à fond sur le marketing sportif, qui se marketait comme ça, en tout cas. C'était avant que la station accueille les X Games, cet événement international hyper influent dans l'univers des sports alternatifs. Mais il y avait déjà, au moment où je suis arrivée, il y avait déjà pas mal d'étapes de franchies qui faisaient que Tignes était un petit peu à part dans l'univers des stations de sport d'hiver. Et donc, mon job, c'était à la fois de faire de la communication des RP tourisme, c'est-à-dire de m'adresser à des journalistes et des pigistes dans l'univers du tourisme pour décrocher des papiers, des reportages sur la destination en tant que telle et tous ses services et tous ses produits. Et puis, de fil en aiguille, ça a un petit peu évolué dans des relations presse plus sport, puisqu'on a organisé les premiers championnats du monde de ski freeride, on a organisé les premiers championnats d'Europe de pêche à la mouche. J'ai fait ça aussi, c'était génial, je m'en rappelle. Tout comme on a accueilli l'équipe de France de foot en stage d'oxygénation à Tignes. Voilà, donc c'était vraiment très, très varié. Il y avait aussi de l'accompagnement d'athlètes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me former mon réseau.
Et donc là, à l'époque, on est en quelle année? Est-ce qu'il y a déjà la presse digitale ou c'est uniquement papier?
J'avais pas prévu d'en parler, Victoire. De ce temps où forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître.
Ouais, mais ça gâche de ta légitimité et toi aussi, tu vois, quelque part, c'est...
Ouais, mais ouais, là, on parle vraiment d'un vieux temps. On parle d'un temps où je me rappelle avoir vu sur l'ordinateur les deux Twin Towers tomber au bureau. On parle d'un temps où il n'y avait pas tant Internet, en fait. Et un temps où on ne pouvait pas envoyer des photos par mail, comme ça. On envoyait ce qu'on appelle des ectas, donc c'était des diapositives avec une photo dessus, et donc les services photos se servaient de ces diapos. On parle de ce temps-là. Voilà, et on envoyait des communiqués par fax. Ça prenait une grosse partie de notre temps d'envoyer des communiqués par fax. Puis après, il y a eu le mass mailing par fax où c'était un petit peu automatisé, et puis après, ouais, il y a eu Internet. Bon, j'ai pas travaillé beaucoup sans Internet, mais j'ai quand même travaillé un peu.
Et c'est intéressant parce que je pense que l'approche mixte, même si aujourd'hui une majorité des contenus passent par Internet, est quand même hyper intéressante. La manière de travailler avec des journaux papier n'est pas la même. Tu as peut-être une proximité qui est différente aussi quand tu connais des journalistes qui travaillent pour la PQR, papier ou digital d'ailleurs. Mais j'imagine que c'est quelque part un savoir-faire qui a de la valeur.
Mais à vrai dire... Que ce soit hier ou aujourd'hui, les gens avec qui on travaille, nos interlocuteurs, on les connaît a priori, surtout quand on est une agence spécialisée comme on l'est. Et hier, on faisait plus de la communication de masse, où tu envoyais un communiqué qui devait plaire à tout le monde, parce que déjà que c'était compliqué d'en envoyer 1500 à la suite par fax. Mais il y avait quand même du sur-mesure. Enfin, tout le monde n'était pas traité à la même enseigne. Et aujourd'hui, le sur-mesure est un peu roi. Et c'est d'ailleurs ce qui rend notre métier très intéressant. Et forcément, Internet a révolutionné notre métier, mais pas que. L'évolution des médias a vraiment changé notre métier.
Donc comment, finalement, qu'est-ce qui fait que tu ne restes pas à Tignes qu'est-ce qui fait que tu finis par repartir à Paris et décides de travailler pour toi?
Teen, ça aura duré de 99 à 2003. En 2003, moi, j'avais fait le tour. Et puis, tu sais, les stations de ski, c'est pas mal régi par la politique, hein, notamment enfin, nos structures, les offices de tourisme, c'est pas mal dépendant des évolutions politiques. Donc voilà, il y avait un changement de maire à cette époque. Je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour faire autre chose. Et puis, tu sais, vivre à 2100 mètres d'altitude à l'année, c'est un peu compliqué. L'accès à la culture est compliqué, notamment, mais pas que. Même si j'avais beaucoup de vacances, c'était top. En 2003, j'ai décidé de partir. Je suis allée dans une agence à Lyon qui s'appelle Claire de Lune, qui m'a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, qui est une agence, une grosse, grosse agence aujourd'hui, spécialisée principalement dans le food, la gastro, le vin et un peu le tourisme. Ils sont bien nombreux aujourd'hui, ils sont plus de 30. C'est une grosse agence de communication généraliste. Et voilà, et à l'époque, c'était très RP. J'avais été en charge de développer toute la partie tourisme d'hiver, événements sportifs, etc. Et ça a duré 3 ans. C'est un super bon souvenir. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que j'ai vraiment commencé à forger mon réseau. On reviendra certainement dessus un petit peu plus tard dans la conversation, mais c'est là où j'ai vraiment commencé à sceller les bases de mon réseau. Pour mes 30 ans, en 2006, j'ai été recrutée par le salon Who's Next, qui est un salon professionnel de mode, que je crois que tu connais bien, puisqu'ils ne sont pas très loin géographiquement. Et voilà, je me suis occupée des RP pour ce salon, et ensuite pour le salon Première Classe. Ça a duré 2 ans, de 2006 à 2008. Et en 2008, il se trouve que j'ai des gens de mon ancienne vie, ce fameux réseau que j'avais commencé à constituer avant Who's Next, qui sont venus taper à ma porte, qui me disent « Ah, tu ne serais pas mis à ton compte depuis 2 ans qu'on n'a plus trop de nouvelles. On vient soit de lancer une marque de ski, on vient d'intégrer un service marketing d'une grosse marque d'outdoor, tatati tatata. » Et c'est vrai que ça m'a donné des ailes. Je n'avais pas vraiment l'ambition, ni l'idée, ni le rêve de me mettre à mon compte un jour. Je suis quelqu'un qui a une grosse, grosse, grosse puissance de travail. J'aime bosser, je crois que ça fait partie des choses que j'aime le plus au monde, c'est bête, mais pour moi, la valeur travail est extrêmement importante. Elle me nourrit beaucoup. Et voilà, et j'avais envie de... Je m'ennuyais un petit peu, je t'avoue, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de salons. Donc, c'était génial pendant les périodes de salons, mais entre, je m'ennuyais un petit peu. Et donc voilà, c'est un peu mis le verre dans la pomme, cette histoire de qu'est-ce que tu fais maintenant, tu ne voudrais pas venir travailler avec nous. Il se trouve que ça ne s'est pas fait avec aucun d'eux, mais que j'avais déjà posé les jalons. Mmh. J'avais entre autres déjà dit à mon employeur que j'allais partir. Et cet employeur m'a fait confiance et m'a dit « si tu pars, on te suit ». Et en plus, on te confie d'autres projets qui étaient en cours à cette époque. Les clients sont arrivés les uns après les autres et vraiment très spécifiquement dans cet univers du sport, de l'outdoor, plus après de la tech. Mais voilà, et ça, c'était qu'une question de réseau.
Est-ce que tu peux nous parler de, aujourd'hui, ta vision des relations presse en général? Finalement, en quoi consistent vos différentes missions avec les marques que tu accompagnes?
La définition usuelle des relations presse, c'est le fait de regrouper un ensemble d'actions à destination de la presse, en d'autres termes, à destination des journalistes, on va dire. Et depuis une dizaine d'années, les influenceurs se sont un petit peu ajoutés dans le but de promouvoir une entreprise et ses produits. Donc le sujet, ça peut aussi bien être une personne physique, un événement, une organisation à but non lucratif, qu'une entreprise et des produits. Les relations presse, les RP, mais on peut confondre avec les relations publiques, mais les relations presse, c'est une branche des relations publiques, justement. Et c'est aujourd'hui un élément indissociable de la stratégie de communication d'une marque. Très clairement, elle lui donne vie, elle lui donne un sens, elle crée du lien entre les valeurs de l'entreprise et les différents publics auxquels elle s'adresse.
Donc, ce que j'aimerais comprendre, enfin, y a différentes questions, mais déjà, j'ai quand même l'impression que c'est un métier qui est relativement récent, enfin, dans l'histoire des marques, tu vois. Est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que ça a eu vocation à exister? Et également, comment est-ce que c'est réparti aujourd'hui? Comment ce marché est structuré entre... est-ce qu'on peut schématiquement dire qu'il y a des RP plutôt luxe, des RP plutôt mode, des RP plutôt outdoor comme toi? Est-ce que ça dépend des tailles des boîtes que tu représentes? Ou est-ce que c'est un peu... chacun fait comme il sent?
Les relations presse existent, je crois, depuis le milieu des années 60. Donc, ce n'est pas tout récent non plus. Et si je me souviens bien, c'est l'entreprise Matra qui avait... structuré donc dans l'automobile. L'automobile, et pas que, je crois que Matra, c'est aussi l'aéronautique qui avait structuré un petit peu toute cette branche. Avant tout, je pense qu'il faut préciser qu'il ne faut pas confondre les relations presse avec la publicité. Même si aujourd'hui, c'est vrai que l'évolution des médias nous amène de plus en plus à avoir recours à de l'achat média, notre métier, dans sa forme la plus traditionnelle, n'implique aucune transaction financière avec les organes de presse. Ça, c'est vraiment important de le préciser. Il consiste vraiment à aller chercher de la visibilité, du rédactionnel uniquement, sans rémunérer le média en contrepartie. C'est hyper important de bien travailler les messages qu'on souhaite pousser en presse, car tous sont... Enfin, n'ont pas forcément le potentiel de retenir l'attention du journaliste. Ça, c'est une partie de notre expertise, d'essayer de déterminer quels sont les messages, les produits, les sujets qui vont avoir une résonance auprès des médias, parce que certains n'en auront pas. Et puis, pour revenir sur le scope de l'activité, si tu veux... Enfin, si on parle des outils purs, il y en a pas, ils ne sont pas très nombreux. Hein. L'outil principal, c'est le communiqué de presse. Tout le monde a déjà entendu parler d'un communiqué de presse. Il y a aussi ce qu'on appelle les médias day. Les médias day, c'est quand tu as une personne physique, un interlocuteur, qui soit top manager, qui soit chef de produit, qui soit directeur RSE ou athlète, ou j'en passe, c'est des meilleurs, où il va rencontrer sur une période plus ou moins longue des médias pour des interviews. T'as également ce qu'on appelle des seeding. Donc quand tu envoies des produits aux journalistes, donc ça se fait soit tu envoies dans un brown bag par courrier ou coursier, si le journaliste est proche de toi, soit il vient le chercher, soit tu t'y mets un petit peu plus de créativité. Tu vas aller faire un seeding créatif où tu vas scénariser l'envoi de ton produit. Donc ça, c'est fun, généralement, à réfléchir. Aujourd'hui, on essaye de le considérer de manière responsable, hein, de ne pas faire des trucs fous. Et je ne sais pas si tu as vu, d'ailleurs, récemment, la rédaction de Vogue qui, il y a 2-3 ans, envoyé un courrier aux grosses agences de presse américaines au moment du Black Friday, un message les invitant à être raisonnables et surtout de faire des envois qui ont du sens. Tu ne vas pas envoyer les produits à tort et à travers. Quand il y a des besoins, quand il y a besoin de les tester. Donc voilà pour le seeding, je me suis un petit peu éternisée.
Mais... Non, c'est intéressant. Est-ce que tu as un exemple de quelque chose que vous avez scénarisé pour une marque, alors que ce soit responsable ou pas, mais juste pour illustrer, tu vois, ces dernières années?
Le dernier qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on a fait pour Picture, qui est l'un de nos clients, un de nos fidèles clients depuis 8-9 ans. Ils ont une veste qu'ils peuvent réparer à vie, mais qui est déjà très robuste, très résistante et qui en plus est peut être réparée à vie. Ils ont tout un programme de réparation de leurs produits. Et tout était incarné à travers cette veste et on a envoyé aux journalistes, on avait 8 vestes, tu vois, donc on n'était pas sur 50 vestes. Donc on a fait une sélection de journalistes à qui envoyer ces vestes, qui a été validée par le client. Pour éviter, tu vois, la surenchère de choses ajoutées en plastique ou je ne sais quoi, on a essayé de faire un peu low-tech et on a juste envoyé une photo du ou de la journaliste à qui on s'adressait, qu'on a vieilli avec une application qui s'appelle Cheers. Et je ne sais plus quel mot on a mis, bah, a priori, quand tu ressembleras à ça, tu auras toujours ta veste et elle n'aura pas vieilli ou un truc comme ça. Bon, on avait mis les formes pour ne pas choquer et pour que ça soit plein de bienveillance. Certains en avaient été un petit peu, qu'on connaît bien, on savait qu'ils seraient tout à fait réceptifs à ce type d'humour. Donc on a fait des petits clins d'œil un petit peu plus marrants. Mais pour d'autres, voilà, on a été, notamment pour les femmes qu'on a signées, on ne voulait pas que ça soit mal interprété parce que ça peut T'es pas toujours contente de te voir avec 20 ans de plus. Surtout que c'est a priori pas à ça que tu ressembleras, parce que l'intelligence artificielle fait bien ce qu'elle veut. Ça a bien marché. Donc voilà, c'était attirer l'attention du journaliste au moment où il reçoit ce produit, pour que ça soit pas un produit parmi tant d'autres. Essayer de faire passer le message dans le scénario, tu vois, le message principal qu'on a envie de faire passer, et si possible, retenir l'attention de manière rigolote et faire en sorte qu'on se rappelle de ton action.
Et alors, dans quelle mesure vous attendez des retombées quand vous faites ce genre de move, et notamment quand il y a une dotation? Parce que c'est une question que je me suis souvent posée, au point de, et en premier lieu avec vous, de vous dire et de répéter que nous, on n'accepte pas les dotations en amont parce qu'on ne peut pas s'engager à écrire sur les produits. Et qu'en plus, c'est souvent des choses dont on n'a pas besoin, bien que je comprenne la démarche. Je me suis retrouvée une fois dans une situation où une agence m'avait proposé de choisir une crème dont je m'étais dit « Ok, je vais l'utiliser », et qui m'avait traquée des mois plus tard en exigeant que j'écrive une ligne sur la marque en question. Il se trouve que la crème, en plus, avait tourné au bout de 2 semaines et que le produit, je pouvais difficilement en vendre les mérites. Donc, c'était hyper compliqué comme situation. Est-ce que, tu vois, c'est un accord tacite, de la même manière que quand tu l'envoies à une personnalité d'influence, tu t'attends à ce qu'il y ait des retours, ou est-ce que tu pars du principe qu'ils sont maîtres de ce qu'ils racontent? Est-ce que rien n'est établi?
C'est là où c'est essentiel de vraiment connaître ton fichier, les journalistes avec lesquels tu travailles. C'est très stratégique, ce genre de placement de produits. Généralement, et même la majorité du temps, on s'adresse à des gens, on sait exactement ce qu'ils vont faire derrière. Parce qu'ils ont la place de le faire. Quand je dis la place, ils ont les colonnes. Et nous, on travaille beaucoup avec la presse spécialisée qui teste des produits et qui produisent ce qu'on appelle des reviews, des tests de produits qui figurent dans leurs colonnes.
Ouais.
Donc, c'est principalement ces gens-là qu'on va cibler en premier lieu pour qu'ils fassent un retour d'expérience suite à l'utilisation du produit. Donc, on sait déjà, avant même de les avoir sollicités, avant même de leur avoir envoyé le produit, qu'ils ont un espace pour se faire écho du produit. Maintenant, on n'est pas du tout maître de ce qu'ils vont écrire. On est bien d'accord que ce n'est, encore une fois, ce n'est pas de la publicité. On n'achète pas cet espace. Donc, on n'a rien à dire. Si l'expérience n'est pas bonne, eh ben, elle n'est pas bonne. Donc là, on peut discuter avec le journaliste et lui demander pourquoi, et lui demander dans quelles conditions. Mais on n'a pas de marge de manœuvre pour lui demander un erratum, pour lui demander, à part si il dit quelque chose de faux, si il nomme un matériau au lieu d'un autre. Mais voilà, dans la plupart des cas, on fait attention à qui on l'envoie en premier lieu. Et deuxièmement, c'est compliqué de s'acharner sur les journalistes, comme tu le dis, c'est contre-productif. Tu peux relancer une fois, généralement 3 semaines après, mais pas bien plus, tu vois, assez rapidement. Si, bah, dans nos seedings, il y a une partie, malheureusement, un pourcentage où on n'a pas de retour, et c'est acquis et par nous et par le client.
Oui, le garde-fou, en fait, c'est qu'effectivement, si tu fais pas ou quasiment pas de paid media, donc finalement, la marque te donne une enveloppe que tu lui suggères de répartir de telle ou telle façon selon une stratégie qui comprend du seeding avec un pourcentage de pertes potentielles évaluées, c'est ça?
Absolument.
Et alors, en termes d'accompagnement événementiel, parce que ça, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous faites, c'est peut-être lié au milieu de l'outdoor, mais est-ce que dans ta partie RP, t'es force de proposition, tu vois, sur la stratégie de conquête de marché, par exemple, wholesale ou retail, typiquement, puisque tu fais pas que de la com pour le B2C, j'imagine aussi pour le B2B. Est-ce que ça, vous avez une liberté de... Ouais, c'est ça, de proposition?
Alors, généralement, nous, on est... Aujourd'hui, les agences, quand une marque recherche son partenaire RP, ils font un appel d'offres et sollicitent plusieurs agences. Et la différence va effectivement se faire à la créativité de ton plan d'action. Pas que aussi les cibles et les influenceurs que tu es capable d'adresser, mais la créativité, et notamment la créativité événementielle, les événements que tu vas organiser pour les médias et ou les influenceurs dans le cadre de ta campagne, est clé.
Ah oui, là, tu parles des événements que 187com organise, donc à destination de son public, J'avais en tête typiquement un Who's Next, tu vois, ou un salon spécialisé outdoor. Mais dans quelle mesure c'est des recommandations que tu fais aux marques? Admettons, c'est une marque, tu vois, de moyenne envergure et pas nécessairement l'idée de participer à ce type de salon. Est-ce que toi, tu peux lui proposer une strat? Si vous signez un deal sur une année, tu dis, OK, on va faire tel volume de presse, tel volume d'événements donc de notre fête. Et puis, il faudrait que vous soyez présent sur tel et tel salon.
Le pouvoir de recommandation d'une agence est capital, notamment pour les petites marques où les managers font tout de A à Z. Ils ont besoin d'être aiguillés, ils ont besoin d'être conseillés. Et effectivement, notre conseil, alors ce n'est pas de l'accompagnement, notre expertise s'arrête vraiment aux relations presse, à la création de contenu, au média training, à la stratégie d'influence et à l'achat média. Mais on est là aussi pour conseiller à des médias d'aller sur des événements, d'exposer sur des grands rendez-vous de la profession. Je pense pour l'univers de l'outdoor, ISPO, mais ça peut être Eurobike, ça peut être le Rock d'Azur, ça peut être Sport Achat. Les rendez-vous sont nombreux. Donc oui, il nous écoute là-dessus, sur des salons, sur des festivals sur lesquels il est important qu'on les voit. Mais ça sera juste de la recommandation, ça sera juste du conseil et on peut suivre ça, mais généralement, ils sont câblés en interne pour le faire. Les relations presse, aujourd'hui, elles sont soit internalisées dans l'entreprise, au sein du service communication, soit elles sont confiées à des agences en externe. Parmi ces agences, il y a deux types. Il y a les agences globales, qui font souvent partie de grosses agences internationales ou pan-européennes. Et puis, ces agences-là sont vraiment très généralistes. Elles se partagent des gros annonceurs. Et puis, il y a les agences à taille plus humaine. Alors, je dis souvent des agences un peu artisanales, hein, dont on fait partie. Certains trouvent le mot un peu péjoratif compte tenu de notre production de valeur. Mais ces agences-là sont beaucoup plus spécialisées. Elles sont plus corps. Donc, elles sont soit très spécialisées dans la déco, la food, les start-up, la tech, la mode, comme nous, le sport. Et c'est bien cette spécialisation-là qui nous démarque, qui nous fait témoigner d'une véritable expertise. On connaît nos univers sur le bout des doigts. Moi, je sais que je demande à tous mes collaborateurs, les gens que je recherche, c'est au moins de pratiquer ces sports, enfin, un de ces sports ou plusieurs de ces sports. Je préfère ça à l'expérience dans le métier, parce que je pars du principe que si tu n'as pas d'affinité avec cet univers-là, a priori, tu ne seras pas vraiment compétent dans l'agence. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un métier qui peut s'apprendre sur le tas et sur le tard. Voilà, le fait de connaître nos univers sur le bout des doigts, de fait, on a aussi des relations beaucoup plus proches avec les journalistes et les influenceurs qui se rattachent à ces univers. Et puis après, pour terminer, à côté des services en interne, des grosses agences, des petites agences, des grosses agences généralistes, des petites agences spécialisées, comme dans chaque métier, il y a des freelances. L'agence travaille avec 3 freelances, en plus des 8 salariés. Et puis après, comment ça structure? On parlait de toutes les spécialités. Tu as des agences de presse mode, tu as des agences de presse déco. On a tous notre spécialité. Aujourd'hui, on traite tous plus ou moins de sujets de développement durable. Nous, on a eu la chance d'être assez précurseurs sur ces sujets-là, puisqu'on on accompagne des marques qui étaient là avant beaucoup d'autres. Donc voilà, on le fait depuis un petit peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, tout le monde a affaire à des sujets responsables, très clairement.
Mais c'est hyper intéressant parce que ça requiert, tu l'as dit, connaître ces sujets sur le bout des doigts, c'est une chose à la fois en termes de pratique sportive, d'approche des sportifs et des journalistes de ce milieu-là, mais aussi de compétences techniques en matière de... tout quoi, de produits, de textiles. Vous avez un scope qui va de l'habillement à l'accessoiring. Vous avez la mobilité douce aussi, je crois, en partie.
La mobilité. Voilà.
Et vos communiqués sont ultra fouillés, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de termes techniques qui bien souvent requièrent, en tout cas de ma part, des efforts de recherche, alors que pourtant j'ai quand même l'impression de connaître un peu mon sujet. Mais c'est un apprentissage continu et le développement durable vient ajouter à cette tâche quotidienne, en fait, de se tenir à jour.
Absolument, mais c'est hyper important d'être hyper informé, d'être curieux, de se cultiver. C'est essentiel, en fait. C'est essentiel, ça nous permet de rebondir, ça nous permet de prendre un petit peu de hauteur. L'exercice de communiquer, il n'est pas facile parce que généralement, tu as un communiqué qui t'est fourni par l'international, qui n'est pas du tout localisé sur ton pays. Et si t'en, enfin, il faut quand même se mettre à la place du journaliste qui reçoit, je sais pas, peut-être une centaine de communiqués par jour, si ce n'est plus. Et donc, il faut essayer de sortir du lot, bah déjà avec une jolie présentation, et puis essayer dès le départ d'attirer l'œil et de poser une problématique générale, tu vois, de pas partir du principe que le journaliste que tu as en face de toi sait de quoi tu vas lui parler, de l'amener petit à petit par un fait un petit peu généraliste, une tendance actuelle, un phénomène, à s'intéresser au sujet dont on va lui parler. Mais effectivement, ça demande d'être précis, ça demande d'être pointu, ça demande d'être exigeant, ça demande de ne pas commettre d'impair, effectivement, donc de faire relire pas mal. Voilà. Et puis d'avoir un discours qui tient vraiment à la route, parce que le communiqué, c'est une chose, mais il faut ensuite relancer les journalistes, il faut les avoir au téléphone et puis les transformer, en fait, ton essai et faire en sorte qu'ils écrivent. Donc, il y a plusieurs étapes. Et si tu ne maîtrises pas ton discours, c'est compliqué.
Et alors, comment est-ce que tu organises justement tes journées ? Donc, bon, toi, tu diriges une boîte, c'est un peu différent, mais comment est-ce que tu conseilles à tes équipes d'organiser leur journée, justement ? Est-ce qu'il y a un temps qui est requis pour cette veille ? Est-ce que, tu vois, il y a de l'étude de soit de concurrence, soit de juste de place de d'occupation des différents médias, de veille sur la nouveauté, sur tous ces sujets. Est-ce que vous vous nourrissez de ce que vous donnent les marques, ce qui est déjà aussi conséquent ?
Il n'y a pas vraiment de temps, même si certains des collaborateurs organisent leur agenda hebdomadaire avec un petit créneau, soit quotidien, soit hebdomadaire, pour s'informer. Des ateliers de lecture. Alors nous, il se trouve qu'on a plein d'abonnements. On a soit des abonnements à la presse papier physique, soit des abonnements à des newsletters, soit des abonnements à de la presse professionnelle de notre secteur, dans le marketing sportif notamment. Soit on a un abonnement, c'est top d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui en ont marre d'aller au kiosque. Ça s'appelle ePress ou Caféine. Ce sont deux applications qui permettent d'aller lire les médias, mais pas de les acheter à l'unité en fait. Et il y a un historique, donc si tu as envie de lire un numéro de septembre dernier, tu peux. Et donc ça, c'est top. Donc voilà, chacun se discipline au bureau. Et c'est là qu'une bonne partie de ta culture, de ta connaissance va se forger. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer les échanges qu'on a au quotidien avec les marques, avec nos clients. On participe à pas mal de rendez-vous internes, ce qu'on appelle des sales meetings, des PR summits où on échange avec les autres agences. Et puis avec les journalistes aussi, échanger avec les journalistes pendant les événements qu'on organise aussi nous apporte beaucoup d'insights sur notre milieu, sur notre business, sur les autres marques, donc pour faire un petit benchmark. Et c'est, voilà, c'est tout ce qui contribue à faire en sorte qu'on ne soit pas trop largué sur tous ces sujets qui nous concernent.
Et alors, ce serait quoi tes conseils pour une jeune marque qui, admettons, dans un temps 1, n'a pas forcément d'enveloppe RP, pour se constituer un réseau de qualité ?
Alors, il n'y a pas de solution miracle, très honnêtement, pour se constituer un réseau. Je vais répondre très personnellement. Il y a peut-être des gourous qui te diront autre chose, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression que déjà, c'est encore une fois des prédispositions personnelles. Il faut aimer l'entre-gens, il faut aimer rencontrer les gens, il faut être dans un rapport sincère à l'autre, je pense aussi, c'est important, parce que tu ne trompes pas les gens au bout d'un moment. Ensuite, il faut être curieux, il faut forger sa culture dans les univers qui nous intéressent, et un petit peu plus large aussi. Et puis, je pense qu'il faut être un peu différent pour qu'on se rappelle de nous. Alors moi, j'ai la chance, c'est d'être un petit peu différente naturellement, je suis bien plus grande que tout le monde. Et donc, on se rappelle de moi par ma taille. Et voilà, et dans mon métier, ça m'a beaucoup servi, je t'avoue. Mais ça n'a pas tout fait, hein, bien sûr, parce que je pense qu'il faut être aussi très sérieux, il faut être professionnel, il faut être quelqu'un de parole, il faut délivrer un travail de qualité. Bien évidemment, il faut fréquenter assidûment tous les rendez-vous où les gens qui comptent dans ton univers sont présents. Et se rappeler à eux régulièrement, sans trop... être envahissant, mais par une attention bien pensée. Puis après, ça se fait un petit peu tout seul, au fur et à mesure, c'est le bouche à oreille, et puis, pour nous, qui a fait pas mal de miracles. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça se fait un réseau.
Et alors, selon toi, quand tu es toujours une jeune marque, c'est quoi le bon moment pour avoir recours à une agence RP ou peut-être la première enveloppe que tu consacres? Est-ce que tu aurais des recommandations?
Je suis une toute petite marque d'outdoor et je te dis, tout petit budget.
Ben moi, à 187 com, c'est arrivé d'accompagner des toutes petites marques. Quand il n'y avait vraiment pas le budget, c'était du... Nous, on s'accorde... On a des petits projets qu'on fait en pro bono parce que les projets nous plaisent, donc on ne demande pas d'honoraires en retour. Mais ils ne sont pas nombreux, mais on en a deux par an environ. C'est soit des projets, soit des événements, soit des athlètes, soit des petites marques qui se lancent. Le plus bel exemple, très honnêtement, il me revient là, le plus bel exemple que l'on ait, c'est la marque Easy Peasy. Mm-hmm. Aujourd'hui, elle a un bon pied dans le sport. Hein. Au départ, c'était une marque vraiment lifestyle et j'ai rencontré les trois fondateurs qui sortaient de leurs études au moment où je les ai rencontrés il y a plus de 10 ans. Et ils avaient un concept de ce qu'on appelle un face-à-main. Le face-à-main, tu sais, c'est comme ces lunettes que tu tenais du bout des doigts par une longue tige et que tu mettais les binocles devant tes yeux. Voilà. Donc, leur solution, leur invention, c'était de mettre ces face-à-main, super design en acétate avec un petit cordon, tu sais, les petits cordons de stylo sur les guichets de banque, là, les petits cordons en fer avec les petites boules là, et de distribuer ce face-à-main dans tous les lieux qui accueillent le public, sur les guichets, pour éviter, pour ceux qui ont bien évidemment des problèmes de, je crois que c'était d'hypermétropie ou de, voilà, je ne sais plus quelle est cette défaillance visuelle qui te demande de mettre d'autres yeux pour écrire ton chèque ou lire les petites lettres des terms and conditions. Mais voilà, et c'était leur invention, mais ils n'avaient pas les moyens. Et donc, on avait passé plusieurs après-midi ensemble, deux ou trois, où je leur avais expliqué comment faire un communiqué de presse. Ils étaient ultra motivés et ultra disposés à travailler, tout faire pour lancer leur concept. Ben, je leur ai donné les petits outils pour faire un communiqué de presse. Je leur ai donné un fichier, parce que moi, j'ai accès à des fichiers de journalistes qu'on achète. Enfin, c'est des abonnements qu'on souscrit à l'année. Et puis, je leur ai donné un petit peu les clés. Une fois que le fichier est là, que le communiqué est là, qu'il faut que tout est mis en page, que c'est prêt à partir et que ça part, qu'est-ce qu'il faut faire après pour que ça transforme? Donc, voilà, j'avais donné un petit peu toutes ces pistes. Puis, au final, aujourd'hui, ils sont à la tête d'un c'est pas un empire, mais d'une oui, marque sublime, une marque internationale, avec plus de 4000 points de vente. Et on s'est retrouvés en cours de route et on s'occupe aujourd'hui de toute la partie sport d'Easy Peasy. Donc, on est super honorés. Mais voilà, donc soit tu demandes des conseils dans ton entourage à des professionnels de la communication qui vont te donner des petits trucs. Donc ça, c'est le premier conseil. Si tu as un petit budget, et il n'y a pas de petit budget, on peut faire quelque chose avec tout. Avec tout type de budget. Alors après, ça sera peut-être pas dans la durée. Mais en revanche, on peut faire à partir de 700, 800 euros, tu peux faire un communiqué de presse, mettre un fichier, etc. Donc voilà, tu fais déjà un communiqué de presse. Si tu es une marque de mode, peut-être un petit lookbook où tu mets toutes tes silhouettes. En début de lookbook, si tu pouvais replacer un petit peu quelles sont tes valeurs, un petit manifeste de qui tu es, où tu veux aller. Ouais, qu'est-ce qui te meut dans la vie? Quelles sont les valeurs qui te font bouger? Et voilà, et quel est le sens de tout ça? Et puis après, bah voilà, avoir un fichier pour l'envoyer. Encore une fois, plus tu seras créative sur les réseaux sociaux, plus tu seras créative dans les points de vente où tu distribues, plus tu auras de succès, ouais.
Oui, effectivement, je me rappelle de Florian Paluel qui racontait qu'au début de Picture, effectivement, c'était la sympathie des trois fondateurs et puis leur approche un peu... audacieuse dans les stations, je crois, pour vendre leurs produits, qui a fait que petit à petit, ils se sont fait une réputation et qu'ils ont commencé à être vendus de plus en plus. Donc, je retiens raison d'être qui vaut le coup, sincérité et créativité pour ceux qui nous écoutent et qui lancent leur marque. Alors, tu nous as dit que tu étais en freelance et après, tu nous as dit que tu avais 8 personnes en CDI. Donc, comment t'es passé de ton activité de free à l'agence 187com? Pourquoi tu l'as créée?
Alors, à vrai dire, j'ai jamais véritablement été en freelance. Je me suis tout de suite montée en société.
D'accord.
J'ai jamais été auto-entrepreneuse. C'était un souhait. Quand tu te lances, quand tu fais le choix de ne plus travailler pour un employeur, tu te poses la question, est-ce que je me monte en indépendante, en free? Ou est-ce que je monte une société? Moi, mon projet, c'était... je sais pas pourquoi, hein, parce que je te dis, je l'avais jamais réfléchi véritablement. C'était pas une vocation du tout que d'être entrepreneuse. Mais je le voyais pas différemment, parce que je crois que c'est difficile pour moi de travailler seule. Et que l'une des valeurs qui m'anime, c'est la transmission, la valeur travail, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, moi, ce qui était important, c'était vraiment de se transmettre. Donc, si, pour transmettre, il faut avoir une équipe autour de soi. Donc, très rapidement, en lançant 187com, c'était le projet, c'était d'être, de ne pas être seule. Et pour cause, Lucille, qui est aujourd'hui associée à l'agence, est là depuis, depuis 6 mois après la création de l'agence. Donc, depuis septembre-octobre 2008.
Et donc, les premières marques avec lesquelles vous avez bossé, c'est...
Alors, on a commencé, comme je te disais tout à l'heure, avec cet organisateur de salon, WSN Développement, qui est aujourd'hui organisateur des salons Who's Next et Première Classe, salon de mode et d'habillement et salon d'accessoires de mode. Très rapidement, c'est Mizuno, l'équipementier multidisciplinaire japonais, qui a frappé à notre porte. Et ça, je le dois à une personne qui s'appelle Catherine Norse, qui a une grosse et belle agence de relations presse, hein, qui est, d'aucuns pourraient dire, notre concurrente aujourd'hui. Et c'est le cas, puisqu'on est souvent sur les mêmes appels d'offres. Mais une personne que j'admire immensément et qui m'a clairement mis le pied à l'étrier en invitant Mizuno à... se rapprocher de nous, parce qu'à l'époque, elle ne pouvait pas prendre cette marque pour je ne sais quelle raison, peut-être des raisons de concurrence au sein de son agence, ou parce qu'elle n'avait peut-être pas à ce moment-là les ressources pour s'en occuper. Donc, ça a été la première marque avec laquelle on a travaillé. Très rapidement après, c'est Red Bull France, qui venait de s'installer en France en juin, quasiment en même temps que nous. Donc, je dirais que quelques mois après, Red Bull France a fait appel à nous pour de la distribution de vidéos.
Et ça, c'était une relation qui venait de l'époque de Tignes, où tu les avais rencontrés sur
ouais,
des events.
C'était relation de relation.
D'accord.
Relation de relation. Relation d'un ami qui m'est très cher et qui a été producteur et qui est producteur de vidéos dans l'univers, dans ces univers de sport alternatif. Et donc, qui nous a mis entre les pattes de cette incroyable marque, et avec laquelle ça continue d'ailleurs toujours.
Hein, et qui a dû quintupler de volume depuis que vous bossez ensemble.
C'était déjà une belle et grosse marque, hein, parce qu'ils sont arrivés en France sur le tard, ils étaient déjà bien installés à l'étranger. Donc voilà, il y a eu Red Bull, Mizuno, et puis après, c'est venu un petit peu par phase. Columbia, très rapidement, est arrivé, donc aussi gros faiseur, gros leader de l'industrie de l'outdoor. Le leader, si on peut dire, aujourd'hui, il fait partie des trois gros, des trois, quatre gros.
Tu mets qui dans les gros? Tu mets VF Group?
Moi, je mets TNF, With Honor's Face, Patagonia, Columbia. Eli Hansen a une belle place également, et on a de la chance de travailler avec eux. Et voilà, c'est pour ceux qui me viennent tout de suite à l'esprit.
Donc aujourd'hui, comment elle se compose, ton équipe? Quels sont les différents corps de métier? Et puis peut-être, comment est-ce que tu répartis les marques qui ont chacune leur spécificité?
Aujourd'hui, 187com, c'est deux pôles. Un pôle conso et un pôle événements et athlètes. Pour ces deux pôles, on fait des RP, hein, c'est la constante. Des RP de l'influence, de l'achat d'espace, de la création de contenu et du média training. Nous sommes 15 en tout. Dans ces 15, il y a 7 consultants qui sont principalement sur le pôle conso. Je reviendrai sur les marques qui constituent ce pôle-là juste après. Il y a 3 freelances RP qui travaillent sur le pôle événements et athlètes, 2 ou 3 stagiaires en fonction des périodes, 1 fonction support comptabilité administratif, enfin comptabilité RH, devrais-je dire plutôt. Administratif, c'est nous, chacun qui nous en occupons. Et moi, donc ça fait une quinzaine de personnes. Et donc sur le pôle conso, en fait, chacun a sa petite expertise. On a un pôle lifestyle avec la marque Timberland, qui s'est rapprochée de nous notamment parce qu'on avait une expertise outdoor et développement durable. Voilà, on travaille avec Brompton aussi, qui est dans ce pôle, donc une belle marque anglaise de vélos pliants, de vélos urbains, soit électriques, soit mécaniques. Ce pôle-là s'occupe aussi de toute la communication auprès des médias lifestyle de l'ensemble des marques de l'agence. À côté de ça, on a une expertise mobilité, dans laquelle nous regroupons des marques comme Moustache, Bikes, donc de vélos électriques, une marque française fabriquée dans les Vosges. Nous nous occupons de Strava, le réseau social des sportifs, de Zwift, qui est une plateforme de fitness connectée, principalement vélo et course à pied, qui a connu un essor fulgurant pendant le Covid, et pour cause, puisque tu pars dans des mondes virtuels avec ton vélo qui est fixé sur ce qu'on appelle un home trainer. Donc tu es dans ton salon, dans ta chambre ou dans ton garage, et tu t'évades, enfin tu fais véritable du monde du sport. C'est de l'e-sport, mais où tu actionnes autre chose que tes pouces et tes doigts, donc où tu entretiens vraiment ta santé physique. On s'occupe également de Suunto, les montres sportives connectées. On travaille également avec pas mal de marques d'outdoor. Patagonia, qui est peut-être la marque historique d'outdoor aujourd'hui dans l'agence avec laquelle on travaille. Je pense à Égal Historique avec Oka, qui est notre sublime marque de chaussures, de running et de trail et de rando d'origine française, qui a été rachetée par un groupe qui s'appelle Deckers. Et donc voilà, on doit travailler avec eux depuis maintenant une dizaine d'années. Pareil pour Picture, voilà, qu'on accompagne quasi depuis le départ, dont on est vraiment honoré et fiers d'être les partenaires. On travaille avec Eliansen, Saleva et Orthovox, qui sont des marques qui sont arrivées plus récemment à l'agence, mais qui sont encore de très très belles références, dont on est bien fiers également. Et nous nous occupons de Primaloft, qui est une marque ingrédient. Hein. Mmh. C'est ce que tu trouves à l'intérieur, ce qui garnit tes vêtements et qui te permet, c'est l'expert des garnitures isolantes pour te permettre d'avoir chaud. Donc ça aussi, c'est une marque qu'on accompagne depuis longtemps. J'en ai forcément oublié. On travaille avec la marque de l'ultra-terrestre Kilian Jornet, qui s'appelle Normal.
Ça lui va bien.
Et là aussi, quelle fierté. Et voilà, on a accompagné des startups comme Everride. Everride, c'est une plateforme d'achat et de revente de vêtements outdoor de seconde main. Ça aussi, c'était un beau succès de lancement. Et puis après, il y a toute la partie événements et athlètes, où là, on s'occupe de Red Bull, qui est l'un des plus gros clients de l'agence et qu'on accompagne à l'année sur des projets événementiels, donc des événements grand public qu'ils organisent, ou alors sur de l'actualité avec leurs athlètes. Donc ça peut être un lancement de vidéo, la participation d'un de leurs athlètes à une grosse échéance, à une grosse compétition internationale, comme les JO par exemple, où là on accompagne la médiatisation de l'athlète en amont, justement, avec toute cette blackout période, c'est pas possible, mais juste après que le blackout soit levé. Et voilà, on s'occupe du FIS, qui est, on ne le dit pas assez souvent, mais le FIS, c'est le troisième plus gros événement sportif gratuit en France après le Tour de France et le Vendée Globe. C'est un événement de sport urbain, de sport alternatif, un sublime événement qui attire 600 000 personnes sur la semaine de l'Ascension tous les ans depuis 25 ans.
Qui est génial.
Qui est canon.
J'ai déjà participé plusieurs fois et c'est vraiment...
On adore cet
événement. La chance que ça existe, surtout gratuitement, enfin, c'est une sacrée expérience.
Ouais, ouais, c'est tout pour les athlètes, tout pour les visiteurs. Ils font un travail colossal. C'est un très, très, très bel événement. On a la chance d'avoir ça en France. Et puis voilà, on s'occupe d'athlètes en direct. On a la chance d'accompagner le champion du monde, Arnaud Gérald, d'apnée en eau profonde. Mais aussi le tout jeune espoir du surf féminin, la vice-championne de France, Tia Zebrowski, qui a juste 11 ans et qui a fait deuxième à, je crois, 4 ou 8 centièmes près de Maud Lecar, qui est première, qui est donc championne de France, mais qui a 20 ans de plus qu'elle. Donc voilà. Donc ça fait, j'en ai forcément oublié, ce sont toutes des très belles marques, des vraies références dans l'univers de la mobilité, de la tech, de l'outdoor, et on a, je m'estime très privilégiée, on est plein de gratitude de pouvoir travailler avec d'aussi belles marques.
Est-ce que parmi toutes ces marques, qui sont quand même des marques à succès dans l'ensemble, tu as un exemple de super campagne de communication, tu vois, un souvenir de quelque chose qui a très bien marché, et puis peut-être faire un peu le case study. Est-ce que c'était le fond du propos? Est-ce que c'était la stratégie?
Bah écoute, ça va pas être très difficile, Victoire, de te répondre. J'ai un exemple relativement récent. Maintenant, en toute humilité, je pense que l'énorme succès de cette campagne ne repose absolument pas. C'est pas je pense, je suis convaincue et je sais que ça ne repose pas sur nos épaules. Il s'agit de l'annonce d'Yvon Chouinard, le fondateur de la marque Patagonia, de léguer son entreprise à la planète, à des organisations de protection de la planète, qui remonte à quelques mois, hein, à 2022, et qui est incontestablement la campagne, en tout cas l'histoire, le sujet qui aura déclenché le plus de retombées presse, tout client confondu, à l'agence 187 com ces derniers mois, incontestablement. Mais tu vois, notre intervention sur cette campagne s'est limitée en amont à proposer une exclusivité à un média français.
On peut savoir lequel ?
C'était Le Monde. C'est Le Monde qui a été retenu, le carnet Planète du Monde. Donc, c'était juste de proposer ce sujet en embargo avant le lancement, et ensuite de diffuser un communiqué de presse et un manifeste qui avait été rédigé par Yvon Chouinard, une lettre à l'ensemble des médias, et puis après gérer les questions, gérer les demandes. Mais en gros, voilà, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Il n'y a pas eu grand-chose à faire d'autre que de fournir les assets, les visuels si on avait besoin, les communiqués si on nous le demandait, et voilà.
Oui, mais comme quoi, c'est intéressant parce que ça appuie le fait que ce qui fonctionne est aussi organique. Vous permettez d'être un peu le kick-off vers un vaste réseau et vous avez une crédibilité. Enfin, évidemment, il y a des avantages, mais ça veut aussi dire qu'une marque finalement qui est un peu vide de sens ou qui n'a pas de propos convaincants, en particulier eu égard à sa responsabilité aujourd'hui, je pense, ça doit être compliqué à accompagner. Ça t'est déjà arrivé de refuser d'accompagner des marques?
Oui, et on a ce luxe aujourd'hui. C'est juste parce qu'on n'était pas forcément inspiré par elles, parce qu'on n'était pas forcément en phase avec leur discours, leur positionnement, leurs produits, leurs valeurs. Ou alors parce qu'on ne trouve pas justement les aspérités. On a été approché par des marques de tech qui... Il n'y a aucun produit différenciant, tout est produit en Chine, il n'y a aucune histoire autour, c'est dur, dur, dur. Et après, on part du principe que normalement, c'est possible de faire des relations presse sur tout. Si tu es doué, c'est possible de valoriser n'importe quel type d'entreprise, n'importe quel type de produit. Moi, ça ne s'est pas tout le temps vérifié, non. C'est vraiment important de définir à la base quels sont les discours porteurs, quels sont les messages les plus porteurs, les plus différenciants qui vont éveiller la curiosité des médias et créer l'adhésion.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un backlash sur un sujet ou sur une marque qui, notamment enfin, à l'ère des réseaux sociaux et sur un mauvais tweet, sur un malentendu, se prend un revers? Et si oui, ou même sinon d'ailleurs, mais comment est-ce que tu conseillerais de gérer ça en tant que marque ou en tant que personnalité d'influence?
La plupart du temps, ce type de communication, ça sera sur des produits qui sont rappelés. Ça sera sur des produits qui sont rappelés parce que défectueux. Donc voilà, donc c'est anticipé et tu envoies un communiqué, voilà, ou une annonce pour que les médias communiquent sur le fait que la marque rappelle un certain nombre de produits. Donc tu ne laisses pas le temps des mauvaises critiques ou des mauvais retours, des mauvais tests, etc. Par le passé, oui, on a pu effectivement, je ne citerai pas les marques, mais il y a eu des filières d'approvisionnement qui n'étaient pas forcément responsables et fortement critiquables. Je pense même que la marque n'était pas informée que ce fournisseur était bancal, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et donc après, c'est à toi. Voilà, il y a des communications de crise qui sont déployées, généralement qui ne sont pas gérées par nous. Nous, on a des guidelines à suivre. des statements à donner en réactif, généralement, pas en proactif. Toute la communication s'effectue au niveau, enfin plus haut, au sein même de la marque.
Et donc tout à l'heure, quand tu parlais de l'exemple du succès de la campagne Patagonia, tu disais donc de très nombreuses retombées médias et en termes de com. Comment est-ce que, à contrario, tu mesures le succès d'une campagne? Tu vois, est-ce que vous avez des métriques? Est-ce que vous faites, est-ce que vous avez des obligations de résultats et de rapports aux marques? Comment est-ce que tu évalues finalement ce succès, même pour vous?
Ça, effectivement, c'est quelque chose qui a pas mal changé ces dernières années. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, les métriques, les indicateurs de performance étaient principalement autour de l'équivalence publicitaire des médias dans lesquels tu décrochais des retombées. Alors, je ne sais pas, par exemple, tu décrochais une demi-page dans Le Parisien, je sais pas, une interview d'un top manager. Ben, l'équivalent en publicité de cette 2000 pages, c'est tant en brut. Donc voilà, c'est la valeur de ta retombée. Voilà ce que tu aurais dû investir si jamais tu avais acheté cet espace dans ce média. Donc c'était le principal KPI auparavant. Aujourd'hui, il est complètement faussé cet indicateur. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'une page qui est annoncée à, je sais pas, 15 000 euros la page, elle est rarement vendue à ce prix. Donc forcément, ça trompe un petit peu les métriques, l'audience, le reach, mais qui peut se donner pour un média traditionnel, hein, ça sera son lectorat ou son tirage, à voir comment tu t'accordes avec le client, si tu bases ton KPI sur le lectorat qui est forcément plus gros que le tirage, puisqu'on part du principe qu'un média, je crois, est lu 2,5 fois en moyenne, 2,5 fois à 6 fois en fonction du média. Passe de main en main, ou alors c'est son nombre de visiteurs uniques par mois. Donc voilà, c'est l'audience qui va être l'indicateur clé principal. Mais ça peut être le nombre de personnes que tu as eues à un événement que tu as organisé, ça peut être le nombre de posts, ça peut être le nombre de retombées, c'est très variable en fait, les métriques. Mais pour chacun de nos clients, surtout quand tu es en agence, en fin de mois, tu as un reporting sur ton activité et sur les performances du mois.
Et puis, je pense qu'il y a plein d'avantages qui ne sont pas forcément mesurables directement, des collatérales de notoriété, de crédibilité, en fonction des médias dans lesquels tu parais. Enfin, je sais que nous, on vient souvent nous voir pour ça, pour avoir un journalisme d'investigation qui permet à une marque d'avoir la place sur des articles longs, de démontrer ce qu'elle veut faire.
Et créer du référencement.
Je pense, ouais, effectivement, que tout n'est pas mesurable.
Surtout que nous, on a beaucoup de mal à évaluer l'impact de nos retombées.
De temps en temps. Financier, tu veux dire, l'impact.
Et en audience. Et, ouais. et en retour, oui. Et en retour sur investissement avec des ventes, du trafic sur le site internet. Parce que ça, on ne peut pas l'évaluer. On n'a pas les outils pour le faire. C'est pas infaisable, hein, mais il faut mettre en place tout un système de trackers auxquels nos clients qui sont dans les services communication n'ont pas forcément accès. Ce n'est pas impossible, mais c'est très rare. Enfin, moi, de l'histoire de 187com, ça n'a jamais véritablement été mis en place. En revanche, il y a des médias, notamment les médias audiovisuels et notamment les médias télé, où l'impact est ultra visible et sensible. Je pense notamment à Strava, ce leader aujourd'hui dans le sport connecté, donc qui est ce réseau social pour la pratique sportive. Strava, au moment de son installation en France, avait fait un sujet sur TF1, je crois. Et le lendemain, les US, par l'intermédiaire de notre client en France, nous font dire qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète si on a des retours de la part des journalistes, parce qu'il y a eu un bug dans la nuit. Qu'ils n'ont pas du tout encore repéré l'origine de ce bug, mais qu'ils ont eu tant de milliers de nouveaux abonnements, de nouvelles applications dans la nuit, qui sont sûrs que ça vient d'un bug, mais que l'application marche très bien, mais que ce n'est pas normal qu'il y ait eu autant dans la nuit. Voilà. Et en fait, on a fait le rapprochement, c'est qu'il y avait eu un sujet sur TF1 la veille, que ça avait déclenché tout un tas de...
Le back-office avait craqué.
Voilà, il n'avait pas craqué parce que l'application n'avait pas sauté, mais il y avait eu énormément de... Ça leur avait paru louche, donc ils avaient mis ça sur le compte d'un bug. Il y avait eu un nombre d'abonnements colossal suite à cette diffusion. Donc aujourd'hui, on est encore en mesure de dire que la télé, c'est un vecteur de notoriété immense.
Est-ce qu'on peut faire un petit exercice pratique? Admettons que je sois une marque d'envergure moyenne, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je fais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, je vends des produits outdoor, et je te donne une enveloppe de 100 000 euros pour l'année 2023. Comment est-ce que tu la répartirais? J'imagine que c'est un peu comme placer son argent, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Qu'est-ce que c'est, selon toi, la bonne stratégie de répartition?
Je pense que tout le monde te donnera une réponse différente. Oui. Aujourd'hui, il est incontournable de réserver une partie de ce montant à l'achat. Pas forcément l'achat d'espace avec de la publicité traditionnelle, mais à la création de contenu, de la co-création de contenu avec des médias. Je pense que c'est vraiment très important. Mais tu peux aussi passer par de la publicité traditionnelle. Ça dépend vraiment de quels sont tes guidelines, ce que ton service communication t'a demandé. Mais très clairement, réserver une enveloppe dédiée à l'achat média, quel qu'il soit, que ça soit des bannières, du publi rédactionnel. Ça peut être aussi de la programmatique, tu sais, de la publicité programmatique, d'achat de backlink. Peut-être, je ne sais pas, tu m'as parlé de 100 000 euros. 40 000 euros, 40-50 000 euros à cela. Et le reste, tu feras des relations presse, en sachant que les relations presse, il faut que tu payes une partie du service, donc que tu réserves une partie de ces 50 000 euros au service, à la matière grise. Donc après, soit en passant par une agence, soit en faisant appel à un freelance, soit en embauchant quelqu'un en interne, mais a priori avec ce budget, c'est compliqué. Et le reste, donc je ne sais pas, peut-être 30 000 euros aux relations presse et puis 20 000 euros, tous les frais qui vont être enclenchés par la mise en place de ta campagne. Donc, dans ta campagne, il y aura peut-être un petit événement presse. Il y a aussi donc l'événement presse, il va falloir louer une salle, réserver un traiteur, envoyer des gens tester un produit en station, peut-être. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est billets de train, hébergement, etc. Et puis, il y a aussi tous les frais qui sont induits par la mission, comme faire un abonnement, enfin souscrire un abonnement à Cision, qui est l'outil qui te permet de monitorer tous les médias et de remonter toutes les coupures avec où il y a une occurrence avec ta marque. Donc tout ce qu'on appelle des alertes. Hein, donc tel jour, tu reçois un papier du Monde, une pige radio sur France Inter, et puis 2-3 postes influenceurs, puis le lendemain, tu recevras un passage télé, voilà. Mais ça, nous, on ne le fait pas. Ça prend trop de temps, donc on passe par un organe, mais il y en a plein d'autres. Nous, il s'appelle Cision, en l'occurrence, mais tu as Kantar Media. Donc voilà comment je ferais, malheureusement. Dans ce budget de 100 000 euros, j'aurais peu de recours pour de la création de contenu pur. Ça, on en fait un petit peu. On le fait notamment pour Fujifilm, qui est un de nos clients historiques. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure, parce que c'est très particulier ce qu'on fait avec eux. Et effectivement, on les aide à aller mettre un pied dans cet univers du sport, et du sport alternatif notamment, qu'ils convoitent, parce que leurs boîtiers sont vraiment faits pour ça, pour shooter de l'image en action rapide. Et voilà, aujourd'hui, ils étaient plus dans le cinéma et ils cherchent à aller préempter cet univers du sport. Et donc, à travers de la création de contenu, avec notamment des athlètes dont on s'occupe, des contenus courts, ultra créatifs et inspirants, sponsorisés par la marque, on arrive petit à petit à donner de la crédibilité, de la légitimité à cette marque dans l'univers du sport. Mais ça, malheureusement, ce sont d'autres budgets, et sur un budget de 100 000 euros, comme tu me l'as confié, voilà, ça sera, on va dire, moite pub, moitié RP et les frais qui en découlent.
Et alors, de l'autre côté, comment est-ce que tu vois évoluer les médias, notamment digitaux, dans leur crédibilité? Il y a quand même, j'ai l'impression, un appauvrissement global de la qualité des contenus parce qu'il faut faire du volume. En tout cas, il lui fallu faire du volume ces 10 dernières années. Ça a peut-être changé avec l'IA qui va générer des contenus tout seul. Est-ce que selon toi, il vaut mieux rester dans cette logique de contenu un peu massif, avoir des bannières de la vidéo, une présence sur tous les canaux et quelque chose qui se consomme très rapidement? Ou bien il y a quand même de la place pour les contenus de qualité. Je me pose la question et je pense que les usages ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Parce que typiquement, Washington Post n'a jamais eu autant d'abonnés. Et pour autant, ça reste des articles qui sont quand même hyper brainy. Mais il y a aussi de plus en plus de médias très cheap qui ne génèrent pas eux-mêmes des contenus et qui ont plus de pubs qu'autre chose. Donc, c'est quoi ta vision de l'évolution de ce marché ?
Très clairement, on est dans une période de transformation complexe qui implique pour les médias de sacrés challenges. Je suis plutôt optimiste, même si on est en plein dans cette transition. Hein. Donc effectivement, les médias se cherchent. Tu as cité le Washington Post, comme on pourrait citer le New York Times également, qui a vraiment réussi sa transition digitale. Enfin, voilà, c'est les premiers à avoir... à avoir institué l'abonnement payant pour toute la partie digitale. Le vrai enjeu aujourd'hui va être effectivement d'une part de trouver un business model viable, ça c'est une certitude, mais aussi il y a de la place pour tout le monde. Et on le voit, il y a des médias qui naissent toutes les semaines. Des beaux médias qui sont généralement plus sur le temps long, hein, on est moins sur... il y a beaucoup moins de gratuits quotidiens, comme il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait plein de petits gratuits qui se distribuaient dans le métro. Donc, on est moins sur ce type, sur ce format de médias-là, mais plus sur des MOOC, tu sais, sur des médias plus gros, plus importants, avec des sujets plus fouillés et qui sont plus sur le temps long. Il y en a moins dans l'année. Je pense notamment à Incorpore Sano, qui est un gros livre, qui est plutôt mode, mais qui se veut aussi conscient, mais pas que. Là, on a un nouveau magazine qui vient de se créer qui s'appelle Beau, par une partie de l'équipe rédactionnelle de l'ancien Grazia. Donc, il y a des nouveaux médias, il y en a tout le temps. La question, c'est comment faire pour pas non plus épuiser le journaliste, parce que le journaliste, aujourd'hui, il est journaliste, photographe, créateur de contenu, directeur de pub, il produit pour le print, pour le web, et il a des exigences, il faut qu'il ne prenne que les annonceurs, etc. Donc ça réduit un petit peu le prisme. Et bien évidemment, sans se déplacer, il n'a plus le temps, donc il ne peut pas aller s'y faire un papier sur l'île Maurice ou le nouvel hôtel je ne sais quoi. Il faudra qu'il le fasse de Paris parce qu'il n'a pas le temps d'y aller. Donc c'est sûr que ça complique un petit peu les choses et ça fait que de temps en temps, le contenu, il n'est pas de la valeur du contenu d'avant où on avait le temps. Donc voilà, c'est ça qu'il faut réinventer, ce n'est pas impossible. Moi, j'ai confiance pour notre métier parce qu'il faudra toujours des intermédiaires entre ces médias nouveaux, quels qu'ils soient. Tu vois, aujourd'hui, on travaille beaucoup de fait avec les médias sociaux, tous ces médias qui n'existent que sur les réseaux sociaux. Et ces gens-là aussi, ils ont besoin qu'on leur remonte des idées de sujets qui ont de la valeur, parce qu'ils n'ont pas les yeux de partout. Donc, on travaille beaucoup avec ces médias-là. C'est une manière déjà différente, très différente de travailler avec tout le monde. On est beaucoup plus sur le sur-mesure. On travaille avec des budgets, ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, c'était vraiment de l'édito pur.
Aujourd'hui, est-ce que selon toi, c'est indispensable quand on est une marque d'avoir recours à une agence RP et ce serait quoi les avantages imparables?
Alors après, d'avoir une agence RP, je ne sais pas, mais d'avoir quelqu'un un qui service. S'occupe un petit peu de RP, c'est important, ouais. On disait que les relations presse ont pour vocation de conférer à l'entreprise davantage de légitimité par une parole extérieure indépendante. Donc aujourd'hui, elles sont un atout quand même véritablement indispensable pour se faire connaître et accroître sa notoriété. Encore une fois, on peut commencer tout petit et garder quand même des bonnes ambitions. Il faut juste avoir les bonnes idées et être au bon moment. Il faut prendre le temps avec les relations presse. Il faut vraiment prendre le temps parce qu'avant d'arriver jusqu'à l'article ou au poste ou à la diffusion télé ou au passage radio, c'est long. C'est long, il faut avoir écrit, pitché, passé du temps avec le média, que le média ait rédigé, qu'il t'ait demandé tous les assets pour pouvoir parler de ton sujet, les photos, etc. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'est plutôt ça, c'est avoir le temps de le faire et avoir les... Quand je dis les moyens, c'est les moyens humains, pas tant les moyens financiers. Ça demande du temps et même si tu demandes à une freelance qui est dans tes prix ou une agence qui est dans tes prix au départ, si tu penses que tu, en tant qu'entrepreneur et qui lance ta marque, si tu penses que tu ne vas pas avoir le temps de t'occuper de cette personne et que tu penses qu'elle va faire tout elle-même, c'est un vœu pieux. Il faudra que tu l'alimentes régulièrement en info, en contenu, en nouveauté, en actu, enfin en tout. Et il n'y a que comme ça que cette personne pourra travailler correctement.
Nous allons passer à la partie plus inspirationnelle. D'abord, je voudrais commencer avec votre avis sur le GorpCore, si vous en avez un.
J'ai pas vraiment d'avis sur le GorpCore. C'est une tendance qui est hyper intéressante et forcément qui a servi pas mal de marques, même si l'adoption par un public qui n'est pas le public cible et la niche de consommateurs, enfin la niche, le bastion de consommateurs de certaines marques, de temps en temps, c'est un petit peu compliqué de gérer et d'adresser cette cible-là qu'on connaît un petit peu moins bien. Donc, pour revenir, moi, je n'ai pas vraiment d'avis. Moi, je pense que c'est pas qu'on est sur la fin, mais elle n'est pas nouvelle. 4-5 ans maintenant que cette tendance existe. Nous, c'est, encore une fois, c'est pas le public qu'on adresse. Le public des corp-corse, donc pour faire court, hein, c'est ceux qui s'habillent avec des vêtements techniques à la ville. Nous, notre cible, c'est ceux qui pratiquent vraiment les sports. Donc ceux qui sont en paroi, ceux qui sont dans les couloirs de montagne, ceux qui grimpent vers les sommets, ceux qui roulent, ceux qui pêchent. Nous, c'est eux, les personnes qu'on adresse en priorité. Et on le fait à travers les médias que ces gens-là lisent. Voilà. Donc, certaines marques, que je ne citerai pas, nous interdisent d'aller vers la mode. Ou si on le fait, on le fait avec un discours technique ou en mettant en avant les engagements de la marque. Les produits que nos clients vendent sont des produits avant tout techniques qui ont cette fin-là. Voilà.
D'accord, donc si je comprends bien, à l'origine, ce n'était pas de la volonté des marques de vouloir avoir un positionnement plus mode et de lancer cette tendance. Ça s'est fait comme ça, sans contrôle.
Bah, je pense que comme beaucoup de tendances de mode, ça s'est fait de manière complètement naturelle. On est sur des vêtements techniques, durables, résistants, qui permettent de vivre une vie par tout temps, avec tous les obstacles qu'elle rencontre. Voilà, donc forcément, large public peut potentiellement être intéressé par
ce type
de produits.
C'est pour ça que ça plaît autant, finalement.
De produits. Mais les marques, ce ne sont pas... Tu sais, chaque fois qu'on nous expose des go-to-market, des plans marketing, on nous expose les différentes cibles de la marque. Et je peux te garantir, en tout cas, des quelques marques que je t'ai citées, il n'y en a aucune pour laquelle la cible urbaine est la cible prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en fait pas partie, mais elle sera en cible tertiaire. Voilà.
Est-ce que vous avez un livre, un site ou une référence culturelle à nous partager ?
J'ai deux livres. Ça fait un peu promo pour les clients, mais tellement inspirant. Le premier, c'est un business responsable de Vincent Stanley, qui est le bras droit de Yvon Chouinard, qui explique comment entreprendre de manière consciente. Et le deuxième, qui est plus ancien, qui s'appelle Let My People Go Surfing, qui est le livre écrit par Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, et qui est extrêmement inspirant aussi sur la manière dont conduire les affaires. Donc, on va dire que c'est deux bons livres de chevet quand on est entrepreneur et qu'on a envie de faire les choses correctement. J'avais, en termes de... Alors, ce n'est pas inspirant, mais c'est cultivant. J'ai découvert un podcast sur Deezer qui s'appelle « Guerre de business » ou « Guerre des business », dont le journaliste est Lomi Guillot, qui a été pas mal dans la presse lifestyle, mode, je crois. Enfin, j'ai le souvenir, en tout cas, d'avoir traité avec lui. Il était un journaliste assez connu. Et voilà, et notamment, ils viennent de faire des podcasts intéressants sur Nike Adidas, la guerre Nike Adidas, sur les parallèles entre Patagonia et The North Face. Enfin, c'est, voilà, j'ai écouté ça récemment et j'ai bien aimé.
Et est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans ce podcast ?
Je pensais à une personne qui n'est pas véritablement dans la mode, qui est accompagnée par une marque, un équipementier, mais qui, elle, n'est pas du tout dans la mode, puisque son métier, c'est glaciologue, et qui a des choses assez intéressantes à partager sur ce qu'elle constate de son évolution sur les glaciers, sur les calottes glaciaires à longueur d'année. Donc, elle s'appelle Heidi Sevestre. Elle est basée à Annecy, mais elle crapahute sur tous les glaciers du monde et elle fait des prélèvements qui mènent à des analyses. Un autre que j'ai rencontré, que j'avais trouvé très inspirant, il s'appelle Ben Lecomte. Alors lui, il nous a bien alerté sur les microplastiques dans les océans. Ben Lecomte, c'est un nageur longue distance. Il est français d'origine, habitant au Texas depuis de nombreuses années. Et il nage 5000 km en mer, dans les océans. Et sa mission, c'est d'alerter sur le désastre qui s'opère aujourd'hui dans les océans, avec ses vortex de plastique. Voilà. Et il dit qu'à la surface, c'est quelque chose, mais en dessous, c'est encore pire. Et voilà, il fait pas mal de documentaires et de films sur ce qu'il voit dessous quand il nage. Et il avait notamment fait une nage de 3 mois, de Maui, je crois, jusqu'à San Francisco, et où il avait fait des prélèvements aussi avec un petit bateau qui le suivait, avec des scientifiques dessus qui avaient fait des prélèvements tout au long de sa traversée. Et lui avait ramené notamment une série photo qui était affligeante, forcément. Et voilà.
Merci. Et est-ce qu'il y a une rencontre qui a permis de changer votre vie professionnelle ou vous a aidé dans votre parcours ?
Plusieurs rencontres m'ont permis d'avancer. Et heureusement, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de chance de travailler avec une personne depuis quasi le début. Et je pense que l'agence ne serait pas celle qu'elle est si elle n'avait pas été là. Donc, mon associée Lucille. Maintenant, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des grands noms de l'outdoor qui ont aussi changé un petit peu ma manière de voir les choses ou de travailler, ou qui m'ont surtout rendu pleine de gratitude de travailler, justement. Donc, dans le désordre, ça sera Vincent Stanley dont je vous ai parlé, parce que je n'ai pas rencontré Yvon Chouinard, mais Vincent Stanley, c'est vraiment quelqu'un qui, pour lequel je voue une admiration sans borne. Tout comme le cofondateur de Oka, Jean-Luc Diard, qui a été longtemps à la tête de la marque Salomon. Et voilà, cette personne révolutionner l'univers du running avec une chaussure qui bouleversait tous les standards de course à pied. À l'époque, surtout, on était vraiment sur le minimalisme en running. On courait carrément barefoot et barefoot. Et lui, il est arrivé avec une semelle ultra compensée qui accompagne vraiment ta foulée avec ses associés. Et voilà, cet homme-là aussi m'a beaucoup inspirée. Et puis au quotidien, tous les gens avec lesquels on travaille, c'est sont inspirants, c'est ça qui permet de voir durer.
D'accord, merci beaucoup pour cet échange.
Merci Coraline.
Merci Elodie. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te contacter pour un café, travailler chez toi, faire travailler ton agence pour sa marque?
Eh bien, si on veut travailler avec nous, c'est job@187com.fr.
Job au singulier.
Job au singulier.
On met tout dans les notes de l'épisode.
Oh, voilà. Et si on veut faire appel au service de 187com, ça sera hey@187com.fr. Voilà.
Génial.
Et puis, on a toutes les coordonnées sur notre site, 187com.fr. Donc, un appel, c'est bien aussi.
Super, merci beaucoup pour pour cet échange et tous ces insights sur la profession. J'espère que On continuera à travailler longtemps ensemble.
Merci.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.